Oui, alors bref, c'était rapidement, hein, je ne veux pas non plus me détailler hyper d'une façon très longue. Hein. Le faux self, on en parle tout le temps. C'est assez facile à repérer le faux self. Le faux self, c'est l'enfant qui n'a pas eu le holding adéquat et qui du coup a été obligé de s'appuyer non pas sur les liens sains avec le parent, mais de créer quelque chose avec le mental pour essayer de se repérer sur ce qu'il faut faire pour faire plaisir aux parents. C'est le faux self, quoi, quelque part. C'est-à-dire, je suis décalé de ce que moi j'ai besoin et de ce que l'autre s'adaptera à mon besoin. C'est le contraire, c'est moi qui vais m'adapter aux besoins de l'autre. Et pour ça, il faut que je repère ce qui est bien pour l'autre. Et donc, je vais me repérer sur l'autre. Hein. Donc, il y a du faux, le faux self empêche le vrai self qui lui-même disparaît dans l'histoire et ça donne une espèce de dépendance envers l'environnement, envers l'autre, envers un... Alors, il y a une partie du faux self qui est pertinente. Winnicott en parle en disant, par exemple, quand on fait tout bien comme il faut au niveau social, on n'a peut-être pas envie de le faire, mais c'est comme ça qu'on va le faire. Donc, il y a des règles qui sont une sorte de faux self sain, quoi, quelque part. Mais souvent, vous verrez des tas d'écrits sur le faux self qui sont très clairs et on comprend bien comment ça se goupille. Par contre, le vrai self, vous verrez des choses assez différentes suivant les auteurs. Et là, j'ai essayé de faire une espèce de petit point sur le vrai self. Le moi, c'est une instance qui porte les points de repère identitaires, surtout conscients, mais en partie inconscients. Alors que le soi, c'est un processus et non pas une instance. C'est un processus qui est élaboré au fil du temps afin de répondre aux besoins du moi en lui amenant en permanence ou alors au moment opportun les critères dont il a besoin pour s'orienter. Donc le vrai self, c'est ce qui permet de se repérer au plus près de sa propre vérité, en percevant la complexité interne, les pulsions, les désirs, la conflictualité, les attentes, etc., et le rapport de celle-ci avec les relations à l'environnement. Donc, je vais me guider avec quelque chose en profondeur de moi, qui est le vrai self, à condition d'être en lien avec ça. Et je vais chercher des solutions créatives aptes à donner le sentiment d'être vivant, d'être en accord avec moi, d'être orienté sur ce qui importe à moi-même et d'être créatif. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'étendre. La question, une fois qu'on a compris que le vrai self, c'est une sorte de boussole pour s'orienter sur ce qui est important pour soi, la question c'est comment il se constitue ce vrai soi? Comment, à quel moment on l'établit? Comment ça se goupille? Alors, en fait, il s'agit que ça s'expérimente d'abord dans l'intersubjectivité entre l'enfant et le parent pour être ensuite introjecté. Et c'est là où on va tomber sur une expérimentation qui est analysée et par Winnicott et par Cohut, qui a beaucoup travaillé sur le soi. Winnicott dit que pour que le bébé atteigne son vrai self, il doit expérimenter un certain nombre de choses qui sont dans l'intersubjectivité entre le bébé et la mère. Ok, ça c'est clair. C'est là que ça se goupille, si tu veux. C'est là que ça s'établit. Et pour Winnicott et pour Cohut, chacun a établi les conditions qui sont nécessaires pour atteindre un vrai self. Pour Winnicott, le vrai self, il dépend de trois choses. Première chose, la bonne distance. La bonne distance, ça suppose que la mère soit ni trop en train de faire des empiétements, ni trop à distance, ni empiéter, ni délaisser. Donc la bonne distance. Parce qu'après, tu vas expérimenter la bonne distance avec toi-même et avec ce qui se passe, avec la présence adéquate. Alors, donc la bonne distance pour Winnicott. Ensuite, il y a le bon rythme. Il faut que ça soit ni trop vite, ni trop lent, ni trop intense, ni trop léthargique. Par exemple, pour la nourriture, on ne va pas forcer ou au contraire pas donner assez. Donc la bonne distance, le bon rythme. Et pour Winnicott, l'amour de base qui sera perçu inconsciemment par les deux, par la mère et par l'enfant, mais qui se voit par les ajustements pertinents que fait la mère vis-à-vis du bébé. Donc la bonne distance, le bon rythme et l'amour, avec les ajustements. Pour Cohut, il y a trois choses aussi qui sont le miroir, l'idéalisation et le jumelage. Le miroir, c'est que la mère reflète l'enfant, transmet un miroir comme on le fait nous-mêmes dans la reformulation, quoi. Donc, pour Cohut, l'enfant a besoin d'être reflété pour savoir ce qu'il est et ce qu'il ressent. Dans un premier temps, il a besoin d'être reflété. Il a besoin aussi de l'idéalisation, c'est-à-dire d'avoir un objet idéalisé protecteur qui va être un bon parent ultérieurement intériorisé, qui sera, si on reprend l'analyse transactionnelle, c'est le bon parent qui soutient les deux autres états du moi. Et ce bon parent intériorisé, c'est une image, mais en même temps une image imprégnée de la relation avec une bonne mère ou un bon parent. Donc, une image idéalisée, mais bonne, qui est différente d'une image construite, et construite à partir du mental, et qui n'est pas véritablement nourrie par l'expérience d'un bon parent qui a été nourrissant pendant longtemps, enfin nourrissant au sens propre, y compris frustrant aussi. Il y a un bon parent externe qu'on doit expérimenter et qu'on doit idéaliser pendant un temps suffisant pour pouvoir l'intérioriser. Et en déficit de cette idéalisation, eh bien, il y a une construction non pas d'un idéal du moi humain, mais d'un moi idéal, c'est-à-dire une construction mentale de ce que je dois être pour être quelqu'un de bien. Et ce que je dois être pour être quelqu'un de bien, ça se construit à défaut que le quelqu'un de bien extérieur soit suffisamment présent pour être idéalisé et pour être intériorisé. On verra comment tout ça se rejoue dans la cure. Mais il y a une grosse différence entre l'idéal du moi, qui est un bon parent interne qu'on va pouvoir internaliser, et le moi idéal, qui est la construction de ce que je devrais être et qui n'est pas du tout appuyé sur l'intériorisation d'un bon parent, qui est une construction mentale pour répondre à la situation de déficit, par exemple. Donc, le miroir me reflète qui je suis. L'idéalisation de ce bon parent va permettre ultérieurement que je vais intégrer un bon parent interne. Et le troisième point, c'est le jumelage, c'est-à-dire que le bébé puisse percevoir d'une façon empathique que l'autre, le monde interne de l'autre ne m'est pas étranger et en même temps qu'on a une certaine similarité. Donc, il s'agit qu'on soit suffisamment branchés l'un et l'autre pour que il y a quelque chose comme une sorte de perception empathique de ce que l'autre est et de ce que moi je suis, et vice-versa. Donc, en résumé, pour s'installer, le vrai self nécessite beaucoup de choses. Alors que le faux self, c'est assez simple. Il y a un gros déficit et du coup, on construit quelque chose et on est constamment en perte de lien avec une boussole interne qui s'est créée au fil du temps. Et donc, je rappelle, le moi est une instance qui porte les points de repère. Le soi est un processus qui aide à donner les réponses adéquates à ce moi. Et ce processus se base sur des messages internes issus du corps, issus des émotions, des images, de tout un tas de systèmes internes, issu d'un bon parent interne qui me donne l'autorisation de ressentir ce que je suis et de l'écouter. Et à partir de ce moment-là, j'ai un vrai self qui me donne le sentiment d'être vivant et d'être créatif. Alors, en cure, eh bien, on va retrouver tout ça, c'est-à-dire que la bonne distance de Winnicott, ça va être ni empiètement ni retrait. Donc, de la part de l'analyste, ni peu de présence, trop silencieux, ni trop de présence. Le bon rythme, ben c'est un peu la même chose. Pour l'enfant, c'est le bon rythme de la nourriture, le bon rythme de l'excrétion, doser les frustrations. Pour le nous, ça va être le bon rythme du rêve éveillé. Le rêve éveillé pour se nourrir, le rêve éveillé hors rêve éveillé. Alors, on va commencer à travailler dessus. Combien de temps on va se reposer? C'est pas exactement la même chose pour les uns et les autres, le bon rythme du rêve éveillé, le bon rythme du travail sur le rêve éveillé. Donc bonne distance, bon rythme. Amour, ben, faut supporter que l'autre nous idéalise, que en même temps on reste vivant malgré les attaques. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent là autour et qui rejoint quand même l'ajustement pertinent. Le vrai self, eh bien, ça va être que je vais développer un espace transitionnel interne, le fameux préconscient fonctionnel, qui va se développer avec le rêve éveillé, avec le travail métaphorique sur les images. Et pour reprendre Cohut, le vrai self, ça va être que j'ai un certain nombre de reformulations de la part du psychanalyste. Et donc que le psychanalyste va devoir reformuler un certain nombre de choses, mais ni trop peu. Le psychanalyste va devoir supporter d'être un objet idéalisé, protecteur, à côté d'être un objet mauvais, détruit et qu'il faut attaquer, etc. Et progressivement, les deux vont percevoir qu'ils sont finalement dans un monde humain similaire, quelque part. D'où ce que je dis par rapport au danger de la psychopathologie et des étiquettes psychopathologiques, parce que du coup, là, ça fait comme si l'autre était un étranger à ce que nous on est, alors qu'en fait, quelque part, on peut percevoir en nous des trucs assez fous qui sont amenés par le patient, et d'une certaine manière, il y a un jumelage interne qui fait que ben, ce que tu dis ne m'est pas étranger. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ce qui est un long travail en soi pour arriver à cette conclusion. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le vrai self et le faux self. Vous voyez que c'est quand même pas très long, mais que ça mériterait beaucoup de développement sur les 6 points en question, les 3 points de Winnicott et les 3 points de Cohut. OK?